Valentin.
Bonjour Élise, bonjour à toutes et à tous. L'ombre d'Israël s'étend sur Gaza ce vendredi. Le cabinet de sécurité a validé les plans de Benjamin Netanyahou pour prendre le contrôle de la ville. 1 million de Gazaouis s'inquiètent de devoir fuir. La Maison-Blanche veut mettre de l'ordre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donald Trump reçoit les deux camps aujourd'hui pour négocier la paix. Une paix très stratégique pour Washington, nous le verrons. Enfin, la loi du plomb suite, mais pas encore fin. Le Conseil constitutionnel a censuré partiellement. Emmanuel Macron en prend bonne note, mais nombreux sont ceux à vouloir continuer le combat. La réunion a duré et duré, mais au petit matin, le cabinet de sécurité israélien a validé le plan de Benjamin Netanyahou, vaincre le Hamas et prendre le contrôle de la ville de Gaza. Réaction unanime ce matin de la Turquie qui appelle la communauté internationale à empêcher la mise en œuvre de cette décision. Un plan en forme d'erreur selon le Royaume-Uni qui ne permettra ni la libération des otages ni à mettre fin au conflit. La Chine se dit gravement inquiète. Même tonalité dans la bande de Gaza où l'on craint désormais des déplacements forcés vers le sud de l'enclave. Alice Moreno, vous avez échangé avec un réfugié du camp d'Al-Mawasi qui ne voit pas comment un tel déplacement est envisageable.
Ahmed est resté éveillé toute la nuit, accroché à son téléphone. Il a découvert la décision d'Israël au petit matin.
Ça a été un choc pour nous, parce qu'on pensait que l'opération se terminerait bientôt. Je pense que nous en avons eu assez. Gaza n'en peut plus.
Ce père de famille, réfugié à Al-Mawasi, ne voit pas comment les habitants de Gazaville vont pouvoir être accueillis dans le camp.
Les tentes sont déjà les unes à côté des autres. Dans le camp ici, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de source d'énergie, il n'y a rien. Littéralement rien. Ce sont des tentes au milieu du désert.
Il rappelle que les Gazaouis, à bout de force, affamés, ne peuvent pas se déplacer une fois encore.
Personnellement, j'ai déjà dû me déplacer plus de 15 fois. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Et tout ça sous les bombardements, les frappes aériennes. Ils ne donnent pas d'occasion aux gens de se déplacer en sécurité.
À terme, il redoute bien sûr les assauts d'Israël qui veut s'emparer de tout le territoire.
Nous souffrons vraiment. Nous avons un futur inconnu. J'ai toujours peur de ne pas me réveiller le jour suivant. Je regrette de m'être marié et d'avoir eu un fils. Il ne mérite pas de vivre ça.
L'évacuation de Gazaville pourrait durer 2 mois avant l'offensive totale de l'armée israélienne.
Alice Moreno, ce plan israélien sonne comme un prélude à l'occupation de la totalité de l'enclave alors que 75% du territoire est déjà contrôlé par Tsahal. Éric Begala, bonjour. Ce premier objectif, le contrôle de la ville, prendra à lui seul des mois à se réaliser.
Oui, la première chose à faire, vous l'avez entendu, pour réaliser un contrôle opérationnel sur la ville de Gaza, c'est d'abord de transformer toute la zone urbaine de Gazaville en zone d'opération. Et pour ce faire, il faut donc d'abord, avant toute opération militaire, en évacuer les civils. Tous les civils qui y sont concentrés, entre 800 000 et 1 million de personnes, dont beaucoup sont déjà des personnes déplacées par les combats précédents menés dans l'enclave. Alors déplacer 1 million de personnes, c'est déjà une opération très lourde. Il faut non seulement faire bouger ces personnes physiquement, a priori vers le sud de l'enclave, mais aussi leur trouver un point de chute, un endroit où se rétablir. Il faudra sans doute imaginer un autre camp géant de déplacés au-delà de ceux d'Al-Mawasi et de Deir el-Balat qui concentrent déjà près de 900 000 personnes. Il faudra ensuite assurer la fourniture d'aide humanitaire à toutes ces personnes, eau, nourriture, soins, et ce n'est pas avec les 4 centres de distribution de la Gaza Humanitarian Foundation, le dispositif israélo-américain très controversé, qu'Israël pourrait y arriver. Le plan d'opération dessiné cette nuit prévoit l'évacuation complète de Gazaville pour le 7 octobre. C'est seulement ensuite que les opérations militaires pourront débuter.
Et même avec une ville de Gaza vidée de ses civils, on imagine que ces opérations, elles aussi, prendront du temps.
Oui, cité ce matin par la chaîne israélienne Channel 12, le chef d'état-major des armées, le lieutenant-général Eyal Zamir, estime mais devant le Conseil de sécurité de cette nuit, qu'il lui faudra 5 mois de combat intensif, particulièrement dans la zone de Gazaville, pour réduire substantiellement les forces du Hamas qui y seront toujours embusquées. C'est du combat urbain, long, difficile, avec face à Tsahal quelques 20 000 combattants estimés du Hamas, désormais complètement réorganisés en petites cellules de guérilla urbaine. On peut compter sur celle-ci pour multiplier les coups de main, les piégeages, les attaques brusquées visant les troupes israéliennes, sans vraie perspective de victoire militaire face à l'armée d'Israël, bien sûr. mais qui pourrait quand même lui causer quelques sérieux dommages, d'autant que les troupes israéliennes sont déjà largement épuisées par près de 2 ans d'affrontements dans la bande de Gaza, sans compter les autres terrains où l'armée israélienne est encore engagée, le sud du Liban, la Syrie et la Cisjordanie.
Merci beaucoup Eric Biegala. Le Hezbollah devra déposer les armes avant la fin de l'année, demande du gouvernement libanais qui a confirmé hier sa volonté. La milice est la seule qui ait conservé les armes depuis la fin de la guerre civile en 1990. Elle refuse catégoriquement et a déjà fait savoir qu'elle n'ignorerait l'injonction. Au cœur des crispations, il y a une feuille de route proposée par l'émissaire américain Tom Barrack. Elle prévoit un calendrier précis pour ce désarmement, que certains jugent être une ingérence, d'autres une nécessité. Les Libanais, eux, craignent surtout que cette crise du désarmement ne dégénère. Explication à Beyrouth de notre correspondant Arthur Saradin.
Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement libanais a annoncé qu'il suivrait la feuille de route américaine proposée après la guerre. 11 points présentés à l'issue du Conseil, dont le troisième est au centre de toutes les tensions.
Nous engagerons la fin progressive de la présence armée de toutes les entités non gouvernementales sur l'ensemble du territoire libanais, y compris celle du Hezbollah.
Cependant, l'organisation refuse de rendre les armes. Selon elle, impossible sans garantie de retrait préalable des territoires occupés par Israël, ni sans plan de défense nationale. Hier, l'ensemble des ministres de confession chiite, partisans ou non du Hezbollah, ont alors quitté le Conseil des ministres avant sa prise de décision, augurant ainsi une crise des institutions. Mais une autre question se pose, que pourrait entraîner le refus du Hezbollah ? Une intensification des bombardements israéliens peut-être, ou une confrontation funeste avec l'armée libanaise qui risquerait alors l'implosion.
Arthur Saradin, correspondant au Liban de France Culture. L'Arménie et l'Azerbaïdjan réunis pour un accord de paix. Les deux pays sont engagés dans un conflit meurtrier autour de la région du Haut-Karabakh, soldé en 2023 par la reprise du territoire par Bakou des mains de séparatistes arméniens. Les chefs d'État seront reçus aujourd'hui par Donald Trump. Rosalia MacArthur, bonjour.
Bonjour.
Les États-Unis cherchent à jouer un rôle moteur car au centre de l'attention de la Maison-Blanche, il y a un corridor très stratégique entre les deux pays.
Le texte prévoit notamment que les États-Unis obtiennent des droits d'aménagement sur ce corridor de 43 km situé en territoire arménien. Ce projet appelé corridor de Zanguezour par l'Azerbaïdjan fait face à de multiples blocages depuis des années. Il se situe dans une zone stratégique. Le corridor relierait l'Azerbaïdjan à son enclave frontalière de la Turquie, son allié. Une artère par laquelle pourraient transiter les routes de l'énergie entre le Moyen-Orient et l'Europe. Le corridor a été rebaptisé sobrement voit Trump pour la paix et la prospérité internationale. Le président américain y voit une occasion pour les États-Unis de s'installer durablement dans le Caucase au moment où la Russie est absorbée par la guerre en Ukraine et où l'Iran, voisin opposé au projet, est occupé par d'autres défis. Ces derniers jours, Téhéran a néanmoins multiplié les avertissements à l'égard des pays qui cherchent à obtenir un corridor terrestre en Arménie, assurant qu'ils se heurteraient à une réponse ferme de l'Iran.
Rosalia MacArthur pour la rédaction internationale de Radio France. Merci beaucoup. Nicolas Maduro, ou l'homme qui valait 50 millions de dollars, les États-Unis doublent ce matin la récompense accordée à toute personne transmettant une information conduisant à l'interpellation du président vénézuélien. Annonce sur X de la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi. C'est la plus grande prime jamais promise par l'administration américaine. Elle avait déjà été rehaussée en janvier quand le gouvernement de Joe Biden avait qualifié de simulacre la réélection et l'investiture de Nicolas Maduro. C'était 10 jours avant la prise de pouvoir de Donald Trump. Donald Trump, encore lui qui continue de mettre la pression sur les grandes entreprises de son pays. Dernière victime, Intel, le fabricant de semi-conducteurs. Le président veut la tête de son directeur général, Lip Bun Tan. Il l'accuse de lien avec la Chine. Le dirigeant est américain. Il est né en Malaisie. Mais la manœuvre doit surtout pousser Intel à investir aux États-Unis alors que Trump a imposé des droits de douane prohibitifs sur les puces fabriquées à l'étranger. Et si vous parliez à un expert de niveau doctorat sur n'importe quel sujet. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, pas avare en superlatif pour présenter son nouveau modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT-5. Présenté hier au grand public, il promet des capacités renforcées pour le code notamment et moins d'hallucinations. Ces réponses inventées de toutes pièces par le modèle sans que les scientifiques ne comprennent toujours pourquoi. Le Conseil constitutionnel a donc rendu son verdict. Hier soir, il censure partiellement la loi Duplomb et notamment son point le plus controversé, la réintroduction de l'acétamipride, un pesticide interdit en France depuis 2018 et classé cancérogène. Bonjour Marion Ferrer.
Bonjour.
Emmanuel Macron a pris acte de cette décision. Il veut promulguer le texte tel quel, sans nouvel examen à l'Assemblée. Mais les opposants, comme les soutiens au texte, ne veulent pas en rester là.
Les opposants le martèlent. Ils dénoncent aussi le reste du texte, les articles validés au sujet du stockage de l'eau ou encore de l'élevage intensif. Le président, vous l'avez dit, va promulguer la loi. Adrien Clouet, député insoumis de Haute-Garonne, l'appelle à y renoncer.
Une heure avant la dissolution, il disait pas qu'elle est dissoute, donc on sait jamais. On a eu plein d'exemples de sa capacité à changer d'avis en quelques minutes. Moi, en tout cas, je pense que ça fait partie des options sur la table. Et moi, je fais partie de celles et ceux aussi qui demandent cette seconde délibération. Tant qu'au journal officiel, c'est pas noir sur blanc promulgué, eh bien, il me semble que c'est la meilleure et la plus rapide des choses à faire. Parce que ça éviterait une entrée en vigueur de quelques dispositions que ce soit.
Le dépôt d'une proposition de loi pour abroger la totalité du texte est déjà prévu par les écologistes. La gauche qui défend aussi ce matin le Conseil constitutionnel attaqué par la droite et l'extrême droite. Marine Le Pen l'accuse par exemple de se comporter comme un législateur sans en avoir la légitimité.
La droite et l'extrême droite ne connaissent pas notre Constitution. Ils ont visiblement oublié qu'on a une charte de l'environnement et qu'il y a un ensemble de principes dans la Constitution française, par exemple, le principe de non-régression, c'est-à-dire on ne va pas revenir en arrière sur des dispositions et des réglementations écologiques et environnementales.
De son côté, le sénateur LR Laurent Duplomb n'exclut pas un nouveau texte pour réintroduire l'acétamipride, volonté soutenue par le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, Romain Blanchard et son secrétaire général adjoint.
La censure, elle est plus sur la forme que sur le fond, puisque le Conseil constitutionnel dit qu'on n'apporte pas de garantie suffisante sur la durée et les contrôles. Ça veut dire qu'il ne ferme pas complètement la porte. Donc ben, on remet le métier sur l'ouvrage, on repart pour trouver un véhicule législatif adapté. Et donc c'est pour donner un cadre de non-distorsion de concurrence et donner des solutions aux agriculteurs un peu partout en France qu'on va se remettre au travail tout de suite.
Et la coordination rurale, elle, pressent des actions à venir, notamment dans les hypermarchés, pour dénoncer la concurrence déloyale.
Marion Ferrer du service politique de France Culture, merci. Autre texte présenté hier au Conseil constitutionnel, le projet de loi dit PLM, validé, lui, il entérine un changement de scrutin pour les élections municipales dans les villes de Paris, Lyon et Marseille. Les conseillers municipaux centraux ne seront plus désignés à partir de liste par arrondissement, mais élus directement. Les sages estiment que pour ces trois communes, la réforme est à même d'améliorer la représentation des diverses sensibilités politiques. En revanche, autre censure partielle du Conseil constitutionnel hier, en forme de camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur la loi visant à allonger la durée de détention possible en centre de rétention administrative des étrangers présumés dangereux. Elle devait passer de 90 à 210 jours, une durée réservée jusqu'ici au terrorisme, disproportionnée a jugé la rue Cambon. Fanélie Carré-Comte, la secrétaire générale de la CIMAD, une association qui défend le droit des migrants, salue une victoire.
On ne peut vraiment que saluer et se satisfaire d'une décision du Conseil constitutionnel qui en fait est venue rappeler que dans un état de droit, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la privation de liberté. Ça ne peut pas être basé sur des simples soupçons, ça doit être quelque chose d'encadré et de proportionné. Or, vraisemblablement, et nous l'avions pointé, ce n'est absolument pas le cas dans ce qui était prévu dans cette proposition de loi. On est sur quelque chose qui était vraiment très large, qui aurait pu permettre d'avoir de nombreuses personnes en fait fermé jusqu'à 7 mois sur des considérations parfois très vagues autour d'une notion qui est toujours très floue de menace à l'ordre public dont on n'est pas en capacité de définir précisément ce qu'elle est puisqu'on est sur quelque chose qui est vraiment laissé à l'arbitraire de l'administration. Il faut rappeler qu'en 40 ans, la durée possible de rétention, elle est passée de 7 jours à 7 mois. Donc on voit bien qu'on est sur une logique d'inflation continue qui en fait n'a rien arrangé pour l'ensemble de notre société. En fait, ce n'est pas efficace par rapport aux questions d'ordre public ou d'expulsion, puisqu'on sait que la majorité des expulsions se font en fait dans les premiers jours de l'enfermement. Cela n'amène que maltraitance et souffrance. Et donc tout ça, en fait, va dans le mur.
Fanélie Carré-Comte, la secrétaire générale de la CIMAD, au micro de Jeanne Serrin. Un souffle de soulagement dans l'Aude pour les pompiers en lutte depuis mardi contre l'incendie qui ravage le département. Le vent est tombé ce vendredi et un crachin apaise les points chauds. Le feu est fixé depuis hier soir, mais la mobilisation des pompiers reste intense selon la préfecture. 2000 personnes ont été évacuées et n'ont pas pu regagner leurs habitations pour le moment. Il s'agit du pire feu de forêt en France depuis 50 ans. Il a déjà détruit 17 000 hectares de végétation. Enfin, prudence si vous devez prendre le train ce week-end de chassé-croisé estival. La SNCF va supprimer des trains. 3 allers-retours chaque jour sur la ligne Bordeaux-Marseille jusqu'à lundi. Même traitement pour la ligne Paris-Limoges-Toulouse. 1 aller-retour et demi supprimé entre Paris et Clermont. En cause, la chaleur. La SNCF anticipe notamment des défaillances dans la climatisation. Un mot de météo pour terminer. Quelques nuages et un ciel parfois voilé sur la Bretagne et la Normandie, ainsi que sur la région parisienne. Grand soleil de l'Alsace au Pays Basque en passant par la Corse. Côté température, la vague de chaleur est déjà là. Il fera 33 degrés à Auxerre cet après-midi et jusqu'à 37 degrés dans la vallée du Rhône. Le tout avant un week-end qui s'annonce ensoleillé et caniculaire sur tout le pays.